Je vous invite à ouvrir le Cantique des Cantiques. On va continuer le chapitre 5. On va lire quasiment... Ouais, on va lire tout le chapitre 5. Et en fait, on va commencer à partir du verset 2, parce que nous avions terminé la semaine dernière. Alors, je vous rappelle que au chapitre 4, il y avait Salomon qui faisait une tentative très, très agressive, hein, très chaude, très stimulée auprès de la Sulamite. Donc il y avait toute une description là dont on avait tiré quelques leçons, et puis hop, la Sulamite avait coupé court avec cette dernière phrase, hein, qu'on lit à la fin du verset premier: mangez amis, buvez, enivrez-vous d'amour. Voilà, comme si elle demandait à allez, changeons d'atmosphère. Et puis nous allons continuer là avec le verset 2. Et c'est une nouvelle étape. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au chapitre 3, c'est écrit: sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Donc sur ma couche, au chapitre 3, elle avait fait un premier rêve. Et là, on arrive effectivement à une autre étape où effectivement, c'est un peu comme ça: j'étais endormi, mais mon cœur veillait. Donc là, en fait, on va commencer un nouveau rêve, une nouvelle rêverie de la Sulamite. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. La Sulamite répond: mais j'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains a dégoûté la myrrhe. De mes doigts, la myrrhe s'est répandue sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé. Il avait disparu. J'avais le souffle coupé quand il me parlait. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé, et il n'a point répondu. Les gardes, qui font la ronde dans la ville, m'ont rencontré. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui diriez-vous? Que je suis malade d'amour. Les filles lui répondent: mais qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre? Oh, la plus belle des femmes, mais qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre pour que tu nous conjures ainsi? La Sulamite reprend la parole: mon bien-aimé, ah, il est blanc et merveille. Il se distingue entre 10 000. Sa tête est de l'or pur. Ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Ses joues sont comme des parterres d'aromates, une couche de plantes odorantes. Ses lèvres sont des lys d'où découle la myrrhe. Ses mains sont des anneaux d'or garnis de chrysolites. Son corps, c'est de l'ivoire poli, couvert de saphir. Ses jambes sont comme des colonnes de marbre blanc posées sur des bases d'or pur. Son aspect est comme le Liban, distingué comme les cèdres. Son palais, sa bouche, n'est que douceur, et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, et tel est mon ami, fille de Jérusalem. Amen. On s'arrête là. C'est vrai que c'était difficile pour moi de savoir où est-ce qu'il fallait couper, mais je préfère m'arrêter là. Après, effectivement, on s'aperçoit que les filles changent de vocabulaire, mais on va se concentrer ce soir sur ce passage-là. Alors, c'est une nouvelle rêverie de la Sulamite. On se replace dans le contexte, il ne faut pas oublier, parce que c'est vrai que si on essaye de voir les choses avec un esprit cartésien, il y a des choses qui nous échappent, mais il y a tout un jeu scénique. Donc effectivement, on passe d'une scène à une autre, comme ça, ça ne respecte pas forcément la chronologie de 24 heures, ni, ni un agencement coordonné, mais c'est surtout un jeu scénique qui cherche à raconter une histoire avec des émotions et avec un message. Donc, la Sulamite, là, elle est partie dans une nouvelle rêverie. Et comme on l'avait déjà vu, et comme on le voit dans nos propres vies, chaque fois qu'on a des rêveries, de temps en temps, c'est un peu bizarre. Hein. Tout n'est pas forcément très cartésien et très logique. Et on va voir qu'il y a ici des similitudes avec la première rêverie que la Sulamite avait faite. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu de la première rêverie. Elle rêvait de son bien-aimé. Elle le cherche, vous allez voir qu'il y a des points communs et puis des différences. Dans la première rêverie, elle cherche, elle ne le trouve pas, elle parle aux gardes, ils ne lui répondent pas, et finalement, elle finit par le retrouver. Elle le serre très fort dans ses bras, elle s'imagine même l'emmener dans la chambre là où elle-même elle a été conçue, et c'est là qu'elle dit « Hop, stop, arrêtez, ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille. » Donc c'était plutôt un beau rêve. Ça se terminait bien, ça se terminait dans une approche très, très, très physique et très affective. Et là, on est dans une nouvelle rêverie. Et ici, elle imagine que son bien-aimé, il est là. Elle imagine que son bien-aimé est juste derrière la porte. Elle imagine que lui-même l'appelle. Elle imagine qu'il est en train de l'appeler, qu'il est derrière la porte, qu'il a les cheveux mouillés à cause de l'humidité parce que c'est déjà la fin de journée. Donc elle imagine qu'il a traversé toute la campagne pendant la nuit pour la retrouver et donc que la rosée s'est déposée sur ses cheveux. Et puis au verset 3, voilà qu'elle hésite. C'est ça qui est étonnant. Elle hésite à lui ouvrir parce qu'elle est déjà couchée, elle a déjà fait sa toilette et malgré qu'il l'appelle et qu'il lui demande d'ouvrir la porte, elle est là dans son lit, mais je ne peux pas, elle hésite. Et pendant ce temps d'hésitation, elle imagine que les doigts du bien-aimé est rentré. En fait, il faut comprendre que les fenêtres de l'époque étaient sous forme de treillis. En fait, ce n'était pas forcément du verre comme ça, mais les températures étant meilleures que celles d'ici. C'était comme des fenêtres avec du grillage, quoi. Okay. Et donc, derrière un grillage, on peut passer la main. On ne passe pas le corps, mais on peut passer. Et donc, elle imagine que là, il la sollicite, elle lui répond « Mais je ne sais pas, attends. » Et puis, elle imagine que ses petits doigts sont en train de rentrer. Même pas seulement les petits doigts, parce qu'elle imagine même un moment que la main a touché la poignée. C'est pour ça qu'elle parle que la mire, c'est comme si, en fait, elle imaginait que son bien-aimé avait la mire sur lui. On va voir pourquoi. Donc, elle imagine que le bien-aimé a mis sa main sur la poignée pour essayer d'ouvrir. Et pourquoi la mire? Parce que c'est dans ce cadre-là, c'est le symbole de cet amour absent. Mais voilà, quand elle-même va ouvrir, le bien-aimé est déjà parti. C'est un rêve. Et qu'elle s'approche et qu'elle imagine qu'elle va finalement ouvrir, une fois qu'elle s'est décidée à y aller, il n'est plus là. Et c'est là où on retrouve un point commun, par exemple avec le premier rêve, où il dit « je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé ». Et à la différence avec le premier rêve, c'est que dans ce deuxième rêve, elle ne va jamais le trouver. Elle ne va jamais le trouver. Autant le premier rêve était plutôt agréable, autant celui-ci, il est en train de tourner même au cauchemar. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'au verset 7, elle rencontre encore les gardes, comme au premier rêve, à part que là, les gardes la frappent. Ils la blessent. Alors comprenons bien, hein, c'est vraiment un rêve, parce que c'est quand même assez improbable que les gardes commencent à tabasser la fiancée du roi quand même, hein. Donc, on est dans un rêve. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que là, elle est en train, en fait, tout simplement, d'exprimer les sentiments qu'elle a. Les sentiments de souffrance. C'est ça que évoque dans son rêve ses coups. Vous savez, quand on fait un cauchemar, c'est ça. C'est que souvent, on a eu des problématiques et ça se retrouve dans nos rêves. On se sent pourchassé, on se sent poursuivi, on a l'impression qu'on tombe dans un trou. Et bien, elle se sent frappée, humiliée, parce qu'elle s'imagine que les gardes lui retirent le voile. C'est une sorte d'insulte. C'est comme si il la traitait comme une moins que rien. Et donc, ce rêve est en train de se tourner en cauchemar parce que ce rêve est en train d'exprimer tous les sentiments qu'elle est en train de vivre, des sentiments de souffrance. Et elle se sent comme frappée, blessée, humiliée. Voilà ce que signifient ces passages. Elle est en train de dire, voilà ce que je vis au-dedans de moi. Voilà ce que je suis en train d'éprouver au plus profond de moi. Ce rêve tourne au cauchemar parce que la séparation de son bien-aimé n'est plus seulement un simple éloignement, parce que jusqu'à maintenant, bien sûr qu'elle souffrait, qu'elle déchérissait la séparation, qu'elle chérissait, pardonne-moi, le rapprochement avec son bien-aimé. Mais là, c'est comme si la séparation de son bien-aimé devenait quelque chose de trop violent, de trop dur. De trop douloureux. Et pourquoi est-ce qu'elle dit « je suis comme malade d'amour » ? Parce que c'est comme la maladie. On a tous été malades et on a aperçu que dans la maladie, il y a plusieurs degrés. Il y a de temps en temps des maladies, on est juste un peu gêné. Et puis de temps en temps, la gêne devient une véritable douleur, une véritable souffrance. Il y a des fois, on a juste quelques malaises et de temps en temps, ce malaise-là devient une véritable douleur au-dedans de nous. Et c'est ce qu'elle est en train de vivre. Jusqu'à maintenant, elle était malade avec ce malaise, avec cet inconfort, avec cette indisposition. Mais là, elle devient malade au sens où elle en souffre. Elle en souffre. D'ailleurs, le verset 8, c'est une supplication. Je vous en conjure, fille de Jérusalem. Normalement, on connaît la suite. Normalement, c'est « je vous en supplie, ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille. » Parce que c'était comme pour apaiser ses sentiments amoureux qui pouvaient la dépasser. Mais là, c'est plus du tout ça. Si vous trouvez mon bien-aimé, que lui diriez-vous? Dites-lui que je suis malade. Malade d'amour. Et là, autant les derniers propos que la Sulamite avait avec les femmes de Jérusalem, c'était plutôt de dire « laissez-moi tranquille ». Mais là, elle demande même de l'aide, au secours. Je n'en peux plus. Je souffre de trop de cette absence, je souffre de trop de cet éloignement avec mon bien-aimé. Alors, au verset 9, devant cette sollicitude, devant cette demande de la Sulamite, alors les femmes lui répondent. Et puis elle lui pose cette question quand même. Parce qu'elle voit bien cette pauvre fille qui souffre, cette pauvre fille qui refuse les avances du roi, cette pauvre fille qui, au lieu de profiter d'être dans le palais royal, au lieu de profiter de tous les extras, de tout le privilège qu'elle pourrait vivre là au milieu du palais, voilà que la Sulamite, elle se met à l'écart. Alors elle lui pose cette question, mais qu'est-ce qu'il a bien ton bien-aimé de plus que les autres? Pourquoi tu te refuses au roi? Qu'est-ce qu'il a de plus pour que vraiment tu refuses? Mais le privilège que tu pourrais avoir, qu'est-ce qu'il a de plus ton bien-aimé? Si on dirait, aujourd'hui on dirait un de perdu et 10 de trouvé. Qu'est-ce qu'il a de plus le tien? C'est un bonhomme comme les autres, tu sais, hein, c'est tous les mêmes. Qu'est-ce qu'il a de plus? Et là la Sulamite, ah bah va pas retenir ses paroles, hein. C'est avec plaisir qu'elle va commencer à décrire son bien-aimé. Ah, mais mon bien-aimé, si vous saviez. Et voilà que du verset 10 au verset 16, la Sulamite fait une description. Alors effectivement, au chapitre 4, c'était la description de la Sulamite. Et là, c'est la Sulamite qui va décrire son bien-aimé. Au chapitre 4, c'était Salomon qui faisait une description de la jeune fille. Et on se rappelle, c'était très axé sur le physique de la jeune femme. Ses cheveux, son cou, ses yeux, la douceur de sa peau. C'était essentiellement des critères physiques. Tandis que là, la Sulamite, vous allez voir, les critères qu'elle met en avant sont essentiellement moraux. Ce sont ses qualités intérieures. C'est l'être intérieur qu'elle va surtout décrire en se servant de quelques appuis extérieurs. Et vous allez voir qu'il y a une subtilité également dans son propos. Parce que tout en le décrivant, Et en décrivant surtout ses valeurs intérieures, avec subtilité, elle va faire des comparaisons avec le roi Salomon. Parce qu'en fait, la vraie question, c'est ça. La vraie question, c'est de dire, mais pourquoi tu préfères ton bien-aimé au roi Salomon? C'est ça la vraie question que les gens se posent. Alors, elle commence la description. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Comment comprendre ça? Bon, c'est une expression qu'on peut retrouver, si vous prenez des notes, en Lamentations, chapitre 4, verset 7. C'est une expression qui veut dire qu'il était, alors c'est différent traduit, peut-être que dans votre version d'ailleurs, ils ont peut-être changé les mots. Il y a deux manières de comprendre ça. Soit on met en évidence qu'il a un teint qui est plutôt clair de peau, avec un petit ton un peu rosé, qui était un critère de beauté à l'époque, parce que les gens qui étaient trop ensoleillés, trop mis au soleil, ce n'était pas un critère de beauté, il fallait avoir plutôt la peau claire. Donc, ou ça veut mettre en évidence le fait qu'il avait un visage éclatant, qu'il y avait une sorte de fraîcheur dans son visage. Voilà les deux manières de comprendre cette expression blanc et vermeil. Le blanc, c'est le blanc, le vermeil, c'est une couleur rouge, mais vous allez voir, on va revoir ça tout à l'heure. Sa tête est de l'or pur. Ah, ça, on commence déjà à faire une première comparaison avec le roi. Une tête en or pur. Je ne sais pas si c'est pratique à vivre, ça. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le roi, lui, il est coiffé d'une couronne qui est en or. Et elle est en train de dire, vous, votre roi, il a une couronne en or, mais mon bien-aimé à moi, c'est toute sa tête qui est en or, vous comprenez? Il est en train de dire que là, il est précieux, mon bien-aimé. Il ne porte pas sur la tête quelque chose de précieux, mais lui-même, sa tête, elle est précieuse. C'est ça qu'il est en train d'exprimer, pour signifier que c'est la personne du bien-aimé qui est précieuse, et pas seulement un artifice, pas seulement une couronne. Sa chevelure semble être bouclée, aérienne, plutôt de couleur noire. Ses yeux évoquent la douceur, un esprit paisible, reposant. Et quand elle pense à ses joues, peut-être qu'il y a là une notion, voilà, je vais peut-être un petit peu loin, c'est une pensée qui m'est traversée, mais peut-être que quand elle dit que ses joues sont comme des parterres, une couche de plantes odorantes, je me suis dit, à un moment, ah, mais peut-être qu'elle pense qu'il y a une barbe, vous savez, une sorte de couche. Bon, en tout cas, ce qu'elle met en évidence, c'est la douceur de ses joues, de ses lèvres. Elle se rappelle que le contact doux, elle se rappelle que quand elle l'embrassait, il y avait une bonne odeur. Elle se rappelle de ce contact agréable avec son bien-aimé. Elle parle de ses mains, d'une drôle de manière quand même, hein. Je ne sais pas comment vous arrivez à voir ça. Ses mains sont des anneaux d'or. Alors, je ne sais pas si c'était tout bourrelé, tout boursouflé. Non, on doute bien que... C'est aussi une comparaison avec le roi. Et c'est aussi la même image que quand elle dit que toute sa tête est d'or. Vous avez peut-être déjà vu des films. Mais sinon, vous allez retrouver ça, par exemple, en Genèse, chapitre 41, verset 42, Esther, chapitre 3, verset 10, même dans Jacques, chapitre 2, verset 2, il fait allusion à ça. Les rois portaient des bagues, souvent pour montrer leur force, leur noblesse, et en plus, ces bagues-là, ils avaient des sceaux, c'était leur signature. Et donc, on voit souvent, dans quelques films historiques, les rois avec des bagues. Parce que c'était signe d'autorité, c'était signe de puissance. Et quand ils voulaient déléguer une puissance à quelqu'un, justement, ils retiraient leur anneau et le confiaient à d'autres. C'est ce que vous pouvez lire avec Joseph, Genèse 41, 42, et Mardoché en Esther, chapitre 3, verset 10. Et là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Elle est en train de dire que son bien-aimé à elle, il n'a pas seulement quelques bagues, mais toutes ses mains sont des anneaux d'or, toutes ses mains sont autorité, toutes ses mains sont puissance, toutes ses mains, ce n'est pas seulement là quelques bagues qui font qu'il a de l'importance, mais il est important, il est quelqu'un de noble, il est quelqu'un qui a une autorité royale. Elle va comparer son corps à de l'ivoire. Son corps est de l'ivoire poli. On pourrait y voir là la douceur du corps, parce que
Si quelqu'un a déjà eu l'occasion d'avoir de l'ivoire dans ses mains, une sculpture en ivoire, c'est très doux. C'est très doux. Mais là aussi, la Sulamite fait un parallèle avec le roi, parce que si vous lisez 1 roi, chapitre 10, verset 18, on apprend que Salomon s'est fait un trône. Un trône en ivoire. Et là aussi, c'est pareil. Vous, votre roi, il est assis sur un trône en ivoire. Mon bien-aimé à moi, il est tout entièrement en ivoire. Elle met encore là en évidence, non pas un homme qui est élevé par des moyens, par une présence extérieure, mais que lui-même, il est entièrement en ivoire. Il est construit avec ce matériau noble, pur, précieux et de caractère doux et par ce polissage. Le caractère précieux, le caractère riche, le caractère généreux du bien-aimé est accentué par le fait qu'elle parle de saphir, de chrysolite, qui sont des pierres précieuses. Comme si ça ne suffisait pas à la description, elle rajoute cela. Comme pour dire, voilà mon roi, mon bien-aimé, non seulement il est plus que ce que votre roi il est, mais en plus il a de la richesse supplémentaire. Verset 15. Même comparaison. Quand elle compare ses jambes à des colonnes de marbre blanc, elle est en train d'évoquer la force, l'autorité de son bonhomme. C'est un homme qui est debout, c'est un homme qui est ferme, c'est un homme solide. Et non seulement il a des colonnes, ses jambes sont comme des colonnes de marbre, mais en plus, la base de ses colonnes sont en or. Pour montrer sa solidité, la confiance, la robusté de son homme. C'est un homme de confiance. Et là aussi, ces colonnes de marbre, on les retrouvait dans le palais royal. Son aspect, verset 15, son aspect est comme le Liban, distingué comme les cèdres. En fait, le Liban est connu pour les cèdres. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir un cèdre du Liban, mais c'est vrai que c'est un très bel arbre. C'est un beau tronc, ça a des branches élevées qui partent comme ça sur très évasées. C'est très noble, c'est très beau, hein. C'est comme un grand sapin, mais c'est vrai que ça a une noblesse d'avoir l'arbre du Liban. Et quand elle parle que son aspect est comme le Liban, elle fait référence justement à la majesté, à la grandeur de ces arbres-là. Elle est en train tout simplement d'évoquer là la beauté, la noblesse, le prestige et la force, le côté majestueux de l'aspect de son bien-aimé. Son palais, c'est sa bouche, n'est que douceur. Les paroles du bien-aimé ne sont que douceur, les paroles du bien-aimé ne sont que bonté, et on peut même rajouter que il n'est que amour, si on se rappelle le verset 13, où il nous est dit que c'est de sa bouche que sort la myrrhe, et la myrrhe dans ce contexte-là, c'est le symbole de l'amour. Donc en fait, tout ce qui sort de la bouche du bien-aimé, ce n'est que bonté, que douceur, que grâce. Ah, ça c'est un bon bien-aimé, hein ? C'est un bon bien-aimé. En résumé, elle le dit dans sa dernière ligne, hein. Toute sa personne est pleine de charme. Toute sa personne est pleine de charme. Et nous verrons que effectivement la semaine prochaine, nous allons s'apercevoir que les filles effectivement vont avoir le cœur touché par la description d'un tel bien-aimé. Alors, quelle application spirituelle est-ce que nous pouvons tirer de ce passage ? Le verset 2 à verset 6 peut nous parler du sommeil spirituel. Nous trouvons là une description d'un état spirituel tiède. Tiède, ça veut dire que elle n'est pas pleinement endormie. Comme elle le dit elle-même. J'étais endormie, mais mon cœur veillait. Elle n'est pas complètement partie dans les rêves. Mais pas franchement froid. Pas trop loin des choses de Dieu. Mais quand même, il lui manque la promptitude, il lui manque l'élan. Il lui manque l'énergie, il lui manque la spontanéité. Parce que quand elle entend le bien-aimé, sa première réaction, c'est « Oh, mais je ne peux pas.
C'est quand même contradictoire. Parce que depuis le début, elle dit « Oh, je veux te rencontrer, je veux aller vers toi, je dis que le soir va venir, je vais courir vers les montagnes. » Mais une fois qu'elle est au fond du lit et que le bien-aimé dit « Viens !» La première réaction, c'est « Oh non, non, je suis déjà au lit là, je vais salir mes pieds, je ne suis pas en tenue pour sortir là. » Et ça, c'est bien souvent là, l'attitude du chrétien tiède, c'est qu'il est capable, oh oui, il n'est pas en franchement endormi, il va dire qu'il aime les choses de Dieu, il va faire des choses, mais il a pas ce feu, il n'a pas cette énergie, il n'a pas cet élan. Pour peu que ça touche un petit peu de son confort, que ça touche un petit peu de ses habitudes, alors il n'est plus vraiment disponible, quoi. Pourtant, il va bien avoir le bagou, il va bien dire les choses, mais concrètement, le jour où le Seigneur a vraiment besoin de lui, il n'est pas là. Le jour où le Seigneur l'appelle réellement, il n'est plus disponible. Le jour où le Seigneur lui demande vraiment de venir, le servir, là, ses occupations terrestres prennent le dessus, son confort prévaut. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais comment tourner la situation, lorsque la Sulamite décide tout compte fait de se lever et de courir, ouvrir, ben c'est trop tard. Ben oui. Le temps perdu ne se rattrape plus. Les rendez-vous divins, une fois qu'ils sont manqués, ils sont manqués. Il faut que nous soyons au timing avec le Seigneur. Il attend de nous de la promptitude, il attend de nous de la spontanéité, il attend de nous que nous soyons des hommes et des femmes remplis de feu, d'engagement, de volonté. D'ailleurs, c'est complètement ce qu'une église s'est entendue. L'église de Laodicée, à qui il est exactement dit « Tu n'es ni froid, ni bouillant », et qui avait exactement ce problème, parce que Jésus lui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » On voit exactement le même parallèle. C'était exactement le cas de la Sulamite. Elle dit le connaître, elle dit souhaiter le bien-aimé, et quand le bien-aimé est là, et qu'il frappe et qu'il l'appelle, voilà qu'elle ne répond pas, qu'elle reste au fond de son lit. Ni froid, ni bouillant. Que le Seigneur nous garde de ne pas ressembler ni à cette Sulamite dans ce moment-là, ni à cette église de Laodicée. Les versets 7 à 8, alors effectivement j'aurais tendance à nous encourager et à nous dire « soyons malades d'amour ». Soyons malades d'amour, soyons malades de ne point vivre une communion avec le Seigneur. C'est tout à fait normal de se sentir, quand on aime le Seigneur, quand on aime sa présence, c'est tout à fait normal de se sentir mal à l'aise, mal dans sa peau, si on a négligé notre communion avec le Seigneur. C'est un bon signe. C'est un bon signe. Parce que si l'éloignement avec le Seigneur, si le manque de communion avec lui, si le fait que le Seigneur ne nous parle plus, si le fait qu'on ne sente plus sa présence, s'il n'y a plus ce bon parfum de la présence du Saint-Esprit dans nos vies et que cela nous fait ni chaud ni froid, c'est qu'il y a danger. Quand on aime la présence. Quand on aime, on aspire à ce contact. Et même, allons plus loin, on est même malade d'amour de ne pas vivre ces choses-là. On l'a chanté quelque part dans notre chant ce soir. Une heure, chaque jour, chaque instant, on a besoin de toi. Et c'est ça, être malade d'amour selon Dieu. Ne supportons pas d'être loin du berger. Ne supportons plus, ne supportons pas de ne pas l'entendre. Ne supportons pas de ne pas le voir. Ne supportons pas de ne pas sentir sa présence. Dès que toutes ces choses-là sont absentes de notre vie et que notre cœur n'en est même pas chagriné, alors il y a là un signal anormal. Prenons au contraire, et soyons au contraire vigilants et refusons de vivre dans cet état d'éloignement sans en éprouver aucun chagrin. Mais c'est tout à fait normal au contraire. Si l'on est éveillé, si on a encore cette communion avec le Seigneur, c'est tout à fait normal d'éprouver une profonde tristesse après qu'on ait péché. C'est tout à fait normal d'éprouver un malaise quand spirituellement on est là, on connaît des luttes spirituelles. C'est tout à fait normal. C'est la normalité de l'amour. L'amour fait aussi souffrir. La relation
relation avec le Seigneur Jésus va nous faire passer par des situations de travail intérieur. Parce que le Seigneur n'est pas toujours là, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur nous fait passer dans le temps par des déserts, par des difficultés. Et on tâte, on tâtonne, et on souffre de ne pas sentir la présence du Seigneur telle qu'on la voudrait. Mais ça, c'est une bonne maladie. C'est la maladie de l'amour. C'est la maladie que le Seigneur nous demande d'avoir. C'est normal de sentir un combat intérieur lorsqu'il y a un choix spirituel à faire et qu'on ne sait pas comment se positionner. Ce sont de bons signes de vie. Cela signifie que l'amour n'est pas éteint. Et puis les versets 10 à verset 16, la description du bien-aimé. Et en fait, la description du bien-aimé, en fait, si on la regarde, si on veut vraiment l'appliquer comme il est dans le texte, au berger, ça n'a pas de sens. Par contre, dès qu'on commence à l'appliquer à Jésus-Christ, tout devient très clair. Ne serait-ce que par la première présentation. Mon bien-aimé, il est blanc et vermeil. Comment ça, il est blanc, ton berger? Un homme qui passe toute sa journée dehors, tu crois qu'il va garder le teint un peu clair? Il y a un truc qui ne va pas, ça ne colle pas. Et vous allez vous apercevoir que dans chacune de ces descriptions, les caractéristiques du bon berger sont en fin de compte les caractéristiques de Jésus. Notre Jésus, oui, lui, il est blanc et il est vermeil. Il est blanc parce qu'il est sans tache, parce qu'il est pur, parce qu'il est... C'est comme ça qu'il s'est présenté d'ailleurs en Matthieu, je crois que c'est chapitre 27, lors de la transfiguration. Il nous dit qu'il avait le visage resplendissant. C'est ainsi qu'on le redécouvre aussi en Apocalypse, dans la description qu'il est faite au chapitre 1, verset 14. En Daniel, chapitre 10, verset 5, il nous est montré qu'il est soit revêtu d'un vêtement blanc éblouissant, soit c'est sa chevelure qui est d'une blancheur extraordinaire, soit la transfiguration, Matthieu 17, pardonnez-moi. Voilà, notre Jésus, il est parfaitement blanc. Mais il est aussi vermeil. Vermeil, en fait, c'est un couleur rouge vif, comme le sang, évidemment. Et l'œuvre de Jésus, c'est essentiellement l'œuvre de la croix. Et je crois qu'effectivement, à la croix, il était plus de couleur rouge vif et rouge vermeil qu'autre chose. Le sang de Jésus, c'est ce qui impacte notre vie. Une couleur rouge vif qui nous rappelle le sacrifice que Jésus a fait à la croix. Sa tête est de l'or pur, ben oui, parce que l'or, c'est le symbole de l'intégrité. C'est le symbole de la gloire, c'est le symbole de la divinité, c'est le symbole de ce qui est précieux. Et Jésus est le plus précieux des hommes. Jésus, il est divin. Jésus est celui qui était le plus grand des intègres. Il était parfait dans sa sainteté. Ses yeux, qui évoquent également la douceur, un esprit paisible, reposant. C'est en Matthieu, chapitre 11, verset 28, qu'il se décrit lui-même comme étant doux et humble de cœur. Et on voit que dans le regard de Jésus, il n'a jamais porté un regard accusateur, mais un regard de grâce, un regard de relèvement. Quand au verset 13, il est évoqué les joues. Les joues. Pourquoi évoquer les joues dans ce passage-là? Tout simplement pour nous rappeler qu'en Ésaïe, chapitre 50, verset 6, vous pourrez y lire: j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Les joues de Jésus ont même été poussées à la souffrance. On lui a arraché la barbe à ce bien-aimé, lui qui était rempli de douceur et de grâce. Pareil pour les mains. Franchement, est-ce que vous avez déjà vu les mains d'un berger avec plein d'anneaux? Ben non, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais quand on pense aux mains de Jésus et les stigmates, les mêmes stigmates qui, après sa résurrection, demeuraient encore. Si je ne mets pas mon doigt dans son côté ou si je ne mets pas mon doigt dans ses trous, disait Thomas. Eh oui, les mains de Jésus ont été percées. Elles sont le témoignage, non seulement de sa mort, mais elles sont aussi le témoignage de sa résurrection. Amen. L'or, l'ivoire, pardonnez-moi. L'ivoire, effectivement, qui évoque le trône royal. Mais on se rappelle que notre Jésus, lui, n'est pas seulement sur un trône royal sur terre, il est assis sur le trône royal dans les cieux, il occupe. C'est en Apocalypse chapitre 20, verset 11, où Jean dit qu'il vit un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. Notre Seigneur, il est sur son trône. Amen. Il règne dans le ciel. Nous retrouvons la chrysolite qui se retrouve également dans la description de Jésus dans cette vision en Daniel chapitre 10 verset 6. Son corps était comme la chrysolite et le saphir se retrouve également dans la description du futur royaume divin en Apocalypse chapitre 21 verset 19. Il nous est parlé des colonnes et du marbre blanc. Les colonnes et le marbre blanc évoquent le temple de Jérusalem. C'est 1 Chronique, chapitre 29, verset 2, où il nous est dit que voilà, ils ont préparé tous les matériaux en abondance, et notamment ce marbre blanc, et on sait qu'il y avait aussi des colonnes dans le temple. Pourquoi est-ce que le temple, ça parle de Jésus? Parce que lui-même, le véritable temple de Dieu sur terre, c'était pas cette bâtisse, mais le véritable temple de Dieu sur terre, c'est Jésus lui-même. Amen. Après, nous avons aujourd'hui cette délégation qui vient de sa part par le Saint-Esprit qui habite en nous. Mais celui qui incarnait le temple de Dieu sur terre, c'est lui-même. D'ailleurs, c'est ce qu'il dira en Jean chapitre 2, verset 19. Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Alors les gens, « Oh, mais attends, il nous a fallu des siècles pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours, tu vas le remonter. » Mais il parlait de son propre corps, dit la suite de ce verset-là. Les cèdres du Liban, ce n'est pas tellement le Liban qui interpelle, mais effectivement la référence au bois sur lequel Christ a été crucifié. Ce n'est pas anecdotique, vous savez, il n'est pas mort sur une poutre en béton, il n'est pas mort écartelé, il n'est pas mort noyé, il n'est pas mort à coups de lance. Ça aurait pu tout ça, vous savez. Mais Moïse avait prophétisé que c'était celui qui serait pendu au bois qui porterait la malédiction. Il fallait que Christ meure sur le bois. D'où cette référence ici, à ces cèdres du Liban. Non pas parce que ce sont des cèdres, non pas parce qu'ils viennent du Liban, mais l'évocation de ce bois qui a porté nos malédictions. Son palais n'est que douceur, sa bouche n'est que douceur. Nous savons que les paroles de Jésus furent uniques, remplies de grâce, de justice, de bonté, de relèvement, de salut, d'amour. En résumé, je crois que la Sulamite a trouvé les mots justes. Toute la personne de Jésus est pleine de charme. Amen. Amen. Donc cette parfaite description qui est faite pour décrire le berger de la Sulamite, en fait, s'incarne parfaitement et prend tout son accomplissement dans les traits de notre Sauveur Jésus. Amen.